Amor. Il est à terre. Mon crochet sur la tempe a sonné. Il peine à se relever. L'arbitre le compte. Il se lève à 7 avec difficulté. L'arbitre arrête le combat. Il ne proteste pas. Il se retourne vers son entraîneur et choie de nouveau, mais cette fois-ci sans tituber, comme une masse. Mon soigneur me porte en triomphe. La foule m'acclame. Je suis fou de joie. Enfin champion! L'aboutissement d'heures et d'heures d'entraînement rébarbatif. Les fruits savoureux de la victoire. Je réponds aux questions d'un journaliste qui me donnait perdant, avec délectation. Au même moment, l'autre, il a déjà perdu son nom avec sa défaite, meurt d'une hémorragie cérébrale en arrivant à l'hôpital. J'ai cru longtemps aux vertus du sport de compétition et des valeurs qu'il est censé transporter, depuis ma petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Dès le début, j'ai eu pour règle de vie l'obligation de résultat. Et pas n'importe lequel. L'excellence régnait en maître au foyer. Mais l'était-ce? Peut-on nommer foyer un centre d'études pour grandes personnes vicieuses? Pour Docteur Folamour de l'éducation. Un cocon qui n'avait que l'apparence du cocon. Un espace réglementé où tout avait sa place. Depuis le décès de maman et de sœurette dans un accident de la route, j'avais eu une enfance de merde. Un parcours légiféré par un père autocrate, investi d'une mission nouvelle et s'acharnant sur son fils qu'il était bien obligé d'élever. Pourtant, avec le recul, il n'avait pas vraiment les qualités requises pour faire un bon pédagogue. La double parentalité qui lui incombait l'avait davantage durci. La tendresse, la douceur d'une mère aimante et le témoignant avec de petits gestes affectueux me manquaient cruellement. Ma vie s'écoulait avec la régularité d'un métronome, la rigidité d'une bite à son premier émoi. Son organisation avait tout d'un plan comptable. Sur ce dernier point, mon père était un expert. À part la cour de récréation où je pouvais jouir d'un peu de liberté, tout le reste de ma vie était minuté, calculé au millimètre et prévisible à mourir d'ennui. En plus, je devais, le comble pour un enfant qui souhaite garder un jardin secret, rendre des comptes en tout et pour tout. Je devais justifier, expliquer, analyser, comprendre, tirer les leçons de mes prétendues erreurs et me mouler sans discuter au désidérata d'un père. Un père convaincu du droit chemin qui me convenait, du rail qui m'emporterait loin vers le succès. Un succès dont il pourrait se repaître, lui qui n'avait pas eu cette chance d'être épaulé. Par un emmerdeur, lui dirais-je, plus tard. Il était persuadé qu'il devait éduquer un compétiteur, car seule la victoire est belle. Elle seule est reconnue et retenue. Elle seule apporte le succès et l'estime de tous. Il se plaisait à le croire et me le serinait du matin jusqu'au soir, doctement, avec le mépris de ceux qui ne regardent pas l'auditoire. Je n'étais qu'un enfant. Pour lui, avoir l'esprit de compétition était l'arme absolue, le moyen le plus sûr de s'en sortir, de se sortir d'où, et de se hisser au-dessus du cloaque immonde constitué par les médiocres. Il m'apprit, en tout cas chercha à le faire, le combat permanent. Pour ce faire, il s'inspirait du règne animal qu'il citait en exemple. Seul le chef de meute a une vie correcte. Et moi, quoique petit, je me sentais un peu doué de raison, doué d'une intelligence, et doué d'une conscience, pouvant m'éviter de mettre en exergue mes instincts premiers. Mais moi, je ne savais pas, je n'avais pas l'expérience des grandes personnes qui savent ce qui est bon pour les petits, de la naissance à la mort des géniteurs. Dans mon milieu, on méprisait ceux du milieu. Un pas bien, c'est tout moyen, vu d'en haut. L'expert l'affirmait. Pourtant, l'expertise était, avec le recul, plutôt moyenne. À force de ne pas me regarder grandir, il perdit l'estime que j'aurais pu lui destiner. Il ne sut pas voir et comprendre qu'un physique exubérant et un besoin irrépressible de se dépenser demandent autre chose qu'une condamnation sans appel, qu'un mépris non dissimulé pour l'exercice. À l'entendre, seul le sport cérébral pouvait m'épanouir et me faire progresser, c'est-à-dire être un dominant. Dommage, car à l'adolescence, la chose fut entendue. Seul le sport m'apportait des satisfactions. Lui seul m'épanouissait. J'entends par sport toutes les activités physiques. J'y pensais beaucoup aussi, mais je n'avais pas trop d'occasion pour pratiquer. Je n'étais pas pour autant le crétin de service du fond de la classe. J'étais l'élève moyen qui étudie suffisamment pour rester dans la moyenne, bien conscient qu'il doit s'assurer un avenir acceptable et se soumettre à un minimum d'obligations. Mon père, lui, considérait que sport et études n'étaient pas compatibles. Il me mit en demeure de me hisser en tête de classe. Il n'avait pas l'intention de financer un pull à sueur et, pour mon bien, me forcerait à un avenir glorieux. Je le remercierai plus tard. Des études vraiment supérieures, en tête de peloton, étaient la seule alternative, si je souhaitais quelques subsides pour m'agrémenter la vie et accessoirement faire un père fier. Notre voisin était professeur d'éducation physique et baptisé con de première catégorie par mon expert. Argument massue pour me dissuader de tout échange. Bernard, le voisin, devint donc un ami, presque un confident, souvent mon refuge quand l'autre me faisait vraiment trop chier. Avec le temps, j'adoptais ce nouveau père. Je lui donnais systématiquement raison dès lors qu'il pensait autrement que l'autre. Et comme je n'avais rien contre Bernard, je suivis ma vocation avec sa bénédiction et la condamnation sans appel de mon géniteur. Il me coupa les vivres, m'imposa une vie de petite galère, persuadé que tôt ou tard, je reviendrais la queue basse dans mon vrai foyer. Il se trompait. Ma soif de transpiration, mon besoin d'adrénaline, étaient plus forts que tout. J'optai pour le ring et reniai l'expert. Il s'en accommoda assez facilement. Débarrassé sans doute d'une charge qu'il n'avait jamais vraiment souhaitée. C'est ma grand-mère qui me le souffla. Le règne de l'affrontement, le règne des vainqueurs et l'oubli des laissés pour compte. La boxe était l'exemple concret des contraires. Elle mettait en avant les deux faces d'une même pièce. Elle idolâtrait le gagnant et jetait à terre le vaincu, au propre comme au figuré. La gloire au puncher, les nions au punching ball. T'écrasais, en tout bien tout honneur, mais t'écrasais. Les accolades, souvent sincères de fin de match, n'effaçaient pas les bleus et les possibles séquelles à venir. Le noble art n'avait rien d'un sport aristocratique. Il était un sport de gladiateur qui se pratiquait pour gagner, être meilleur que, pour ne pas finir à l'ombre des étoiles. Le public jouissait et criait au sang. Et le public se repaissait et frissonnait à chaque coup comme s'il le prenait pour lui. La violence, la brutalité donne tout, et aux pratiquants et à l'observateur. Elle donne tout ce dont nous devrions nous passer, ce qu'il ne faudrait pas sublimer. Comme une joie mauvaise pour celui qui frappe, comme une soif de vengeance pour celui qui reçoit, comme un regard morbide pour ceux qui attendent le knockdown. Je m'étais fait une petite place dans le milieu amateur. Mon incursion dans le monde professionnel était prometteuse après plusieurs confrontations victorieuses, jusqu'au décès de mon dernier adversaire. Je ne me sentais pas particulièrement responsable, mais j'avais compris que je pouvais me passer de tout ce bordel. Ce serait tout bénéfice pour moi. À défaut de m'aimer, je voulais m'adopter, me regarder dans l'onde pure de ma piscine sans rougir. Narcisse au miroir ne boxerait plus jamais. J'intégrai alors une grande entreprise à succursales multiples qui m'engagea pour booster ses cadres fatigués, démobilisés, perdus et surtout obsolètes. Pendant que d'autres s'occupaient de leur mise à jour, je m'occupais de leur revitalisation. Pour ce faire, pour déterminer ceux qui en voulaient encore, j'organisais des stages de survie. Ceux qui ne suivaient pas finissaient au mieux dans un placard et au pire à la PEC. Je ne boxais plus, mais je ne quittais pas le monde des mesures entre hommes. Moi qui ne croyais plus aux conneries pseudo-motivantes que j'entendais depuis ma plus tendre enfance et aux grosses ficelles inculquées par le sport, je fus sidéré par l'absence totale de jugement de ces gens, prétendument adultes et responsables. Dès qu'il s'agissait de confrontation, ils répondaient présents avec une spontanéité déconcertante. Soit. Je les libérais un temps du quotidien qui les avait rendus amorphes, mais il m'était donné de voir la quintessence de l'esprit de compétition, le gratin des compétiteurs et de la performance. J'avais la crème des crèmes pour faire des jeux de piste, du grimper à la corde, des courses en sac et des reptations dans la boue. Ils se livraient à ces joutes de clubs de vacances comme si leur vie n'avait pas d'autres explications. Faire en sorte que l'autre soit défait fut le credo de mes stages. Je leur donnais le plus qui permettait à l'autre de chuter comme un étron sans qu'il s'en rendît bien compte. Ils aimaient cette finalité. Pour ça, il se préparait, anticipait, détruisait si besoin et ressortait de chaque épreuve gagnante, autosatisfait et prêt à en découdre de rechef pour refaire les chefs. Prêt à subir d'autres humiliations en serrant mieux les dents, paré pour éviter la dépression ou le suicide. Je me rendis compte que les vrais champions se trouvaient dans les entreprises. Le sport était l'enfant pauvre de la compétition. Dans une entreprise, point d'accolade de compassion ou de pitié. Seul le résultat compte. Tous les coups bas sont permis, parfois même encouragés. Venir à bout du concurrent ne suffit pas. Il faut le blesser et l'empêcher d'exister. Je me suis souvenu de mon père qui brandissait mon carnet de notes en hurlant « Tu peux mieux faire et tu dois mieux faire !» Je m'en inspirais pour mes stages de reconditionnement. Comme mon père, je brandissais l'excellence comme un totem, une absolue nécessité, une sainte parole. Pas d'état d'âme, pas de faiblesse, pas de maillon faible, que des vainqueurs. Le culte de papa, ça m'a échappé, il n'a jamais rien eu d'un papa, était de retour. Et les discours angéliques du « faire ensemble » sombraient dans l'oubli. Moi, avec ce type de diktat, j'avais fini par ne plus rien foutre. Tandis que mes stagiaires semblaient stimulés et participaient plein d'ardeur jusqu'à se blesser, jusqu'à blesser quiconque se mettait en travers de leur chemin. Leurs enjeux? Des enfants à nourrir, des crédits à honorer et plein d'obligations qu'ils s'étaient collés sur le dos sans trop savoir pourquoi et sans trop bien se l'expliquer. Ils ne discernaient plus très bien et nageaient dans le liquide amniotique d'une société corrompue et bien crade. Ils avaient vendu leurs rêves au plus offrant depuis longtemps. Tous ces chefs, corps intermédiaires d'une pyramide impitoyable, sortaient des stages, régénérés avec les sempiternelles promesses de ruissellement pour tous, auxquelles ils croyaient de nouveau, persuadés qu'ils seraient meilleurs que d'autres. L'idée du bien-être pour tous dans la performance était de nouveau greffée jusqu'au prochain abattement ou avant de prendre la porte. Autrement dit, une prothèse pour un unijambiste. La compétition est fratricide. Elle n'a qu'un lointain rapport avec le bien-être du vainqueur. La minute de gloire ne fait qu'une minute. C'est court. Le ruissellement? Bla 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 bla. Discours mensonger de celui qui tient les rênes à des ancillaires dévoués qu'il prend pour ses moinillons et qui rêve souvent d'être calife. Les dieux ne font décidément pas preuve d'humilité. Mais ils savent bien que la sueur des faibles fera de grandes rivières pour leurs courses d'aviron de fin d'année. Ils savent bien que leurs esclaves rêvent à des choses qu'ils n'auront jamais et que leurs rêves inaboutis les maintiennent en servitude. Ils savent aussi que, de temps en temps, un élu doit faire surface, car ceux qui singent l'idole ont besoin d'encouragement. Heureux sera l'élu, comme il est dit. Parole d'évangile. Dis seulement une parole. Croire encore et toujours. C'est l'espérance folle. Bla 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 bla, vous dis-je. Je m'étais bien habituée à cette reconversion largement rétribuée. Souvent complimentée pour mon rôle de facilitateur, j'avais une place de choix dans l'équipe. Même si mon rôle n'avait rien de bien glorieux, j'y trouvais assez d'avantages pour persévérer. Même si je savais que donner des armes plus tranchantes aux réitres me rendait tout aussi responsable de leurs exactions. Même si je n'aimais pas l'élite des soudards qui émergeait, forcément au détriment d'autres. Des mêmes si vite ignorés à force de médailles, de privilèges propres à terre mon manque de courage et m'abstenant de toute remise en question. Ici, comme sur un ring, de l'or pour les braves qui savent tourner la tête. Je serais bien restée dans cette entreprise le temps que l'on me trouve un remplaçant plus performant, moins cher et plus célèbre. Mais ma vie fut bouleversée par une banale histoire. Un truc des plus communs qui arrive à tout le monde, dit-on, mais qui ne m'était pas encore arrivé. À l'âge du célèbre crucifié, que de cruels affidés exhibent encore un peu partout, je découvris, malgré la saison froide, le sel et quittai sans peine ma grise mine. Il neigeait, le plafond était bas et sombre. Cependant, mon espace accueillit ce coup de chaud violent qui pousse les jours en souriant. Cet amour hiémal fit bouger mon cul. Il le fallait bien, après ce long sommeil, sans trop de conviction. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que la chérie s'acharnerait sur moi. Ce bon vieux fatalitas rôdait dans les parages. Ma Dulcinée était la fille unique et préférée d'un député qui me prit sous son aile, sans me demander vraiment mon avis, et à qui je ne sus pas déplaire pour ne pas blesser sa fille. Moi qui croyais tout connaître des affres de la compétition, putain maléfique dont je m'étais peu à peu détachée, je fus forcée d'admettre qu'il me restait encore à apprendre. Allégeance et trahison scélérate devinrent mon quotidien pour le bien de tous, le cœur sur la main. Au tout début. Parce qu'au fur et à mesure, même si dans ce milieu entre enculés il n'y a pas de doublure, je trouvais ce que beau papa appelait la nécessité écœurant et exécrable. Parce qu'au fur et à mesure, je dus observer que, pour tous ces gens qui prétendent décider, le consensus était une arme de faible. Vivre en paix et en harmonie était secondaire puisque le principal était d'être élu. Pour l'expert, seule la victoire était belle. Mais dans ce nouveau club, c'était le pouvoir. Il les faisait vibrer. Ils ne le partageaient pas. Il était leur jouissance de prédateur. Il flattait leur orgueil et les faisait bander comme des rois. Je m'étais fait tout petit devant une poupée qui adulait son père roi, et je me rendais compte avec effroi que tout ce monde était peut-être en érection. Personne n'était heureux. Parce que parallèlement, je regardais les gens heureux. Ils n'avaient pas le pouvoir. Ils n'avaient pas gagné de compétition. Ils ne se droguaient pas à la toute-puissance, et ils ne pissaient pas sur leurs congénères en se marrant. Alors, que faire? Sinon rentrer en désamour et se mettre à dos le gratin qui tient le manche? Je le fis, mes amis. Jamais je n'eus à le regretter. Ceux qui me promettaient le pire eurent d'autres combats et ne m'importunèrent pas longtemps, car je fis preuve de réserve. Dès lors, ma vie pouvait commencer. Fare niente, en restant dans le mouvement. Demeurer immobile, statique, tandis que le sang coulait dans mes veines. Vivre tout et son contraire sans nuire, sans bruit, comme un petit pas de danse anodin qui vous porte avec grâce un tantinet plus loin. Ne rien comprendre et tout apprendre. Éviter les conclusions et n'embarquer personne. Se donner sa morale sans église et s'offrir une pensée sans maître. Répandre sa vie et puis tout ramasser. Trouver comment le faire et oublier pourquoi. Cesser ce tumulte qui nous angoisse, nous accélère sans pouvoir le goûter. Accéder à la justesse de nos actes et oublier de se battre pour que chi. Et voilà. Parfois dans le public, un spectateur, presque toujours un homme, criait « À mort !» Et pourquoi pas « Amore !»